Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Les lauriers de la Petite Guerre, un demi-siècle de lutte viticole. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. L'édition d'aujourd'hui s'intéresse à un épisode mouvementé de l'histoire de la viticulture du Midi, particulièrement du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de la Haute-Garonne. Cette histoire n'est pas dépourvue de chocs culturels, ni de violences parfois. Ce que les vignerons du Midi ont obtenu, ils l'ont conquis de haute lutte, se sentant investis d'une mission qui dépassait leurs destinées individuelles. Approuver ou désapprouver ce qui s'est passé n'a aucun sens, puisque les actions des comités d'action viticole que nous allons maintenant évoquer ont marqué le passé et appartiennent à l'histoire de la région Occitanie. Depuis le début du XXe siècle, qui donna au vin sa définition juridique précise, la vitiviniculture a connu de nombreux soubresauts économiques, sociaux et culturels. Il y eut d'abord le soulèvement vigneron de 1907, que d'aucuns ont appelé la guerre du vin, animé du charisme de la figure emblématique de Marcellin Albert, surnommé d'ailleurs l'apôtre des vignerons. Pour mater la révolte, le gouvernement Clémenceau envoie alors 60 000 fantassins et gendarmes. Le mouvement déplace des foules. En mai 1907, 160 000 personnes défilent dans les rues de Béziers. Peu après, 172 000 manifestants prennent le relais à Perpignan et 250 000 la semaine suivante à Carcassonne. Le 2 juin à Nîmes, 300 000 personnes se réunissent pour la même cause, enfin, le 9 juin, pour le meeting de Montpellier, on estime que de 600 000 à 800 000 battent le pavé, tandis que le soir, la caserne Montmorency de Narbonne est le théâtre d'une mutinerie, celle du 100e régiment d'infanterie. Le maire de Narbonne, Ernest Ferroul, qui a soutenu les manifestations, est incarcéré. Il le restera jusqu'en août, ainsi que Marcellin Albert et des membres du comité d'action viticole, qui ne s'appelle pas encore comité d'action à l'époque. Les crises viticoles se suivent, mais ne se ressemblent pas. À la toute fin du XIXe siècle, il s'agit de reconnaître le vin comme produit exclusif de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais, car des producteurs fabriquaient une piquette à base de raisins secs importés, qui nuisait au vin issu des vignobles méridionaux. Après la Seconde Guerre mondiale, certains producteurs du Midi viticole se retrouvent peu ou prou dans la position de fournisseurs de vins à faible degré d'alcool, destinés au coupage des vins d'Algérie au degré alcoolique très élevé. Il en résulte un vin de soif, ou vin de force, qui n'a plus rien des grands vins. Cette évolution empêche de réaliser une valeur ajoutée suffisante qui rendrait possible la juste rémunération des producteurs et leurs investissements. Dès lors, la parade consistait à cultiver des cépages de haut rendement permettant de compenser la faiblesse des revenus à l'hectolitre par une augmentation significative des rendements à l'hectare. Par exemple, une cave coopérative audoise produisait un vin ne titrant que 5 degrés issu de vignes d'un rendement de près de 300 hectolitres à l'hectare, soit 5 à 6 fois plus que de nos jours dans les aires actuelles d'origine protégée. Après 1962 et l'indépendance de l'Algérie, l'économie viticole du Languedoc, du Midi, doit se convertir et organiser un sursaut qualitatif qui, bien sûr, ne s'est pas fait sans difficultés de toutes sortes. Le comité d'action viticole a été créée le 27 juin 1961 à Narbonne. Replanter et réencépager deviennent alors les mots-clés. Les vignerons réclament l'aide de l'État et jugent qu'elle tarde à venir, d'où une nouvelle crise qui commence à poindre dans les années 70. En janvier 71, le comité d'action viticole met le gouvernement en demeure de cesser de stocker des vins d'Algérie qu'il souhaite voir taxés comme des vins étrangers. Des personnages hauts en couleur et en volonté ont alimenté d'une énergie phénoménale cet extraordinaire mouvement qui devient le bras armé du syndicalisme viticole. Animé d'une solidarité maintes fois démontrée, d'une amitié à toute épreuve, ils refusent de laisser s'exprimer leurs différences sociales et politiques au sein des comités. La seule cause qui trouvait grâce à leurs yeux était la défense de la terre au sens large de son économie et de son économie. Ce qui va suivre ne présuppose aucunement de notre part une approbation aveugle de toutes les actions menées par les membres des comités d'action viticole au cours de la seconde moitié du XXe siècle et après. Cependant, force est de constater qu'elles ont joué un rôle souvent déterminant dans la lente mais efficace conversion économique, culturelle et culturelle du Midi viticole. Notre propos est ici d'évoquer quelques-uns des personnages dont l'engagement et la persévérance ont servi la cause des vignerons d'Occitanie. Ce sont les André Castera, surnommé le Christ des Corbières, Jean Huillet, Emmanuel Maffre-Bauger, Jean Vialade, André Caz et Philippe Vergne de ce monde vigneron. Quant à Henri Fabre-Colbert, Mans de Brèche et Claude Marty, ils ont formé d'une certaine façon l'accompagnement culturel et artistique du mouvement, mais aussi politique bien sûr. Il y en eut bien d'autres, courageux et fidèles à cette même cause, les Jean Escaffre, Roger Carbonneau, en son domaine de Villemagne, Joël Castagny, André Delpoux, champion du monde de rugby à 13, ou Albert Tesser, qui n'était pas vigneron, mais vif, sympathisant du comité d'action viticole, et qui d'ailleurs fut incarcéré à la prison Saint-Michel à Toulouse, puis au Baumettes à Marseille.
De la terre en vigne, la voilà la jolie vigne.
De la terre en vigne, la voilà la jolie vigne. Vigny, vignon, vignon, le vin. La jolie vigne au vin, vigny, vignon, vignon, le vin. La jolie vigne au vin.
De la terre en vigne, la voilà la jolie vigne. De la terre en vigne, la voilà la jolie vigne. Vigny, vignon, vignon, le vin. La jolie vigne au vin. Vigny, vignon, vignon, le vin. La jolie vigne au vin. De la vigne en fleur, la voilà la jolie fleur. De la vigne en fleur, la voilà la jolie fleur. Fleurit, fleurons, fleurons le vin. La jolie fleur au vin. Fleurit, fleurons, fleurons le vin. La jolie fleur au vin. De la fleur en grappe, la voilà la jolie grappe.
De la fleur en grappe, la voilà la jolie grappe.
Grappi, grappons, grappons le vin. La jolie grappe au vin.
Grappi, grappons, grappons le vin.
La jolie grappe au vin. De la grappe en cueille, la voilà la jolie cueille.
De la grappe en cueille, la voilà la jolie cueille.
Cueille, cueillons, cueillons le vin.
La jolie cueille au vin. Cueille, cueillons, cueillons le vin. La jolie cueille au vin.
De la cueille en haute, la voilà la jolie haute.
De la cueille en haute, la voilà la jolie haute.
Hôti, hôtons, hôtons le vin.
La jolie haute au vin. Hôti, hôtons, hôtons le vin. La jolie haute au vin.
De la haute en presse, la voilà la jolie presse.
De la haute en presse, la voilà la jolie presse.
Presse, y pressons, pressons le vin. La jolie presse au vin, presse, presse, on presse sans le vin. La jolie presse au vin, de la presse en cuve, la voilà la jolie cuve. De la presse en cuve, la voilà la jolie cuve. Cuve, cuvons, cuvons le vin. La jolie cuve au vin, cuve, cuvons, cuvons le vin. La jolie cuve au vin, de la cuve en tonne, la voilà la jolie tonne. Tonne, tonnons, tonnons le vin, la jolie tonne au vin. De la tonne en cruche, la voilà la jolie cruche. Cruchy, cruchon, cruchon le vin, la jolie cruche au vin. De la cruche en verre, le voilà le joli verre. Verrons le vin, le joli verre au vin. Et du verre en bouche, la voilà la jolie bouche.
Et du verre en bouche, la voilà la jolie bouche. Bouchy, bouchon, bouchon le vin. La jolie bouche au vin, bouchy, bouchon, bouchon le vin. La jolie bouche au vin.
De la bouche en ventre, voilà le joli ventre.
De la bouche en ventre, voilà le joli ventre. Ventri, ventron, ventron le vin. Le joli ventre au vin. Ventri, ventron, ventron le vin. Le joli ventre au vin.
Et du ventre en pisse, la voilà la jolie pisse.
Et du ventre en pisse, la voilà la jolie pisse. Pissi, pisson, pisson le vin. La jolie pisse au vin. Pissi, pisson, pisson le vin. La jolie pisse au vin.
De la pisse en terre, la voilà la jolie terre.
De la pisse en terre, la voilà la jolie terre.
Terre, terre, en terre, en le vin. La jolie terre au vin, terre, terre, en terre, en le vin. La jolie terre au vin. De la terre en vigne, la voilà la jolie vigne.
De la terre en vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, vignon, vignon le vin. La jolie vigne au vin, vigne, vignon, vignon le vin. La jolie vigne au vin, la jolie vigne au vin.
Le comité régional d'action viticole, CRAV, ou comité d'action viticole, le CAV, est un groupe radical occitan de producteurs de vin. Il a revendiqué un certain nombre d'actions terroristes liées à la production viticole. Il mène nombre d'actions coup de poing destinées à influencer et fléchir le gouvernement. Voilà à peu près comment on présente et le CRAV et le CAV dans les documents officiels et même dans les encyclopédies. On verra en écoutant les différentes personnes dont on restitue les déclarations que c'était peut-être un peu plus nuancé que cela. Parlons d'abord de quelqu'un qu'on a nommé chef de guerre, en quelque sorte. C'est surtout les médias qui lui donnaient ce titre. Il s'agit d'André Caz. On pourrait dire qu'il résume à lui tout seul les concepts de vigueur et de simplicité. C'est le destin d'un militant d'un vigneron qui est fils d'immigrés espagnols et donc leader, à un moment donné, du comité d'action viticole. Alors, il vient au monde, lui, le 11 juin 1936, en France. Hein, il est fils d'immigrés espagnols. Mais alors, ce 11 juin 1936, on s'y arrête un peu parce que sa naissance coïncide avec le succès du Front populaire en France, succès aux élections, comme on le sait, et à quelques jours d'une première grande grève générale. Et il y a donc en France, à un moment donné, 2 millions de grévistes. Donc d'emblée, la vie d'André Caz se trouve ainsi placée sous le signe du combat. Et puis la vie se passe, en tout cas sa jeunesse, et à son retour d'Algérie, libéré de ses obligations militaires, il retrouve la propriété familiale en friche. Propriété familiale qui est toujours d'ailleurs située dans l'Aude, près de Carcassonne, au début de la haute vallée de l'Aude, à Leuc. Viticulteur il fut, viticulteur il demeure. Il a des phrases à l'emporte-pièce, vous l'entendrez au cours de cette émission, et il résume sa carrière comme cela. « J'ai taillé jusqu'à 80 000 souches par an. Les grandes victoires, c'est pas sur les autres qu'on les obtient, c'est sur soi », dit André Cazes. Sollicité à maintes reprises pour occuper quelques postes clés, qui n'aurait pas manqué de l'éloigner d'ailleurs de son Leuc natal, de sa famille et de son domaine, il a su résister au chant des sirènes carriéristes. Sauf une fois, peut-être. Alors, il résume ça aussi comme ça. Il dit « On m'a empoisonné pour que je devienne président de la Chambre d'agriculture. Alors, je le suis devenu. Élu à l'unanimité. » Clame Cazes, un brin fierro. Assis à sa table de travail, parmi le mobilier élégant d'une habitation qui a le charme d'une gentilhommière, André Cazes n'a rien perdu de la prestance du chef de guerre que l'on voyait en lui dans les années 70. Son talent premier n'est pas celui de l'orateur prêt à galvaniser les foules. « Notre stratégie, dit-il, était naturelle. Les meilleurs discours sont ceux du silence », affirme-t-il. On lui obéit au doigt et à l'œil. Le style de l'homme tranche avec celui d'André Castéra, grand tribun au lyrisme enflammé qui, avant l'action sur le terrain, tissait la réalité du mouvement dans des mots de fièvre. Pas du tout Cazes. La tête solidement posée sur un cou épais, André Cazes est de petite taille. Son noir regard ne cesse de faire de rapides allers-retours pour faire la part juste de ce qui est à observer et ce qui est à réfléchir. Cet homme qui a défié le gouvernement, qui a tenu la viticulture à bout de bras, s'excuse de parler à la première personne. Ce n'est pas de la fausse modestie, pour qui le connaît bien, mais la conviction que seul le groupe compte et que les réalisations du comité, même d'initiative individuelle, sont avant tout collectives. On s'interroge. Pourquoi l'histoire de cette région a-t-elle fait émerger ce vigneron dans le rôle de premier parmi ses égaux? Par quel don exceptionnel est-il devenu le chef incontesté de la lutte viticole? Est-ce l'agilité d'un esprit concentré sur les moindres mouvements de l'autre et habile à décocher avec la force de l'évidence la réponse immédiate qui persuade? Les services préfectoraux de l'Aude ont déclaré à un journaliste du journal Le Monde « Si Cazes le dit, alors c'est que c'est vrai. » Est-ce sa présence physique, son corps râblé de montagnard catalan, ou bien ses appartenances cumulées au monde du travail, à la bourgeoisie et à l'entreprise? André Cazes fournit un début de réponse. Pour réussir dans cette société compliquée, il faut être simple. Chez lui, point de verbiage tortueux, mais des phrases gorgées de bon sens et formulées de préférence comme des questions. Fils d'immigré espagnol, comme on vient de le dire, André Cazes a dû apprendre très tôt à aiguiser son intuition sur les moindres indices de ce nouveau milieu de vie qu'était la vallée de l'Aude, pour sa famille nourrie de la terre aragonaise. André Cazes avoue ses peines et ses regrets. « Je n'ai jamais pu remercier ceux qui m'ont sauvé la vie, » dit-il, et à l'égard d'anciens du comité d'action à qui les vents favorables ont fait défaut. « Nous sommes tristes d'avoir laissé des camarades au bord de la route. » Mais sans se résigner, il se rend à l'évidence, « La viticulture n'est pas aidée. » Il dit cela un peu sur le ton d'un saint François d'Assise se plaignant que l'amour n'est pas aimé. Quant à sa propre destinée, elle lui apparaît sous une éclatante simplicité. Dans ma vie, c'est toujours la terre qui a gagné. De temps à autre, il s'amuse à brouiller les pistes. Pour réussir en agri, ne pas être intelligent, ne pas être riche, être un naïf pas bête. On fera ce que l'on veut de cet aphorisme, sachant que son auteur en a vécu la réalité dans son mental et dans sa chair. Il sait bien qu'il n'y a pas de portrait moral sans trait idéologique. Alors, il anticipe sur la question. Politiquement, je me définis comme un chrétien du progrès. Je suis pratiquant, je crois en Dieu. Les religions ont une importance. Il faut croire en Dieu et aux hommes tout au long de ce passage obligé ici-bas. Pour lui, deux grandes mutations sont en cours. L'agriculture va cesser d'être un secteur protégé. Et alors, gare aux Américains. Ensuite, le cultivateur d'antan est devenu un chef d'entreprise. Cela avec deux inconvénients, en corollaire, la lourdeur des investissements et la prise de risque. Aux vérités des hommes et des institutions, André Cazes oppose volontiers celle de la nature. On ne triche pas avec les plantes, dit-il. Pour avoir les coudées franches, il a estimé devoir repousser décorations et médailles. Jusqu'à l'âge de la retraite, on ne peut pas recevoir de titre honorifique. André Cazes peut désormais se consacrer entièrement à sa famille et à ses vignes. Sa conclusion ? Après avoir été à la tête de tout, il faut savoir rentrer dans l'humilité. Pas de lutte sans excès. Cela se passe à Aigne, dans l'Aude. Entouré de Jeannot Escaffre et de Jacques Mestre, vigneron comme lui, André Cazes leur explique pourquoi ils ont un besoin impérieux du comité d'action. Cette violence, c'est notre seule façon d'intervenir. Nous savons qu'il y a des barrières à ne pas franchir, soit. C'est une violence nécessaire pour contraindre les pouvoirs publics à rétablir la situation afin que nous puissions vivre au pays. Il n'y a pas de lutte sans excès. À la lecture de La Révolte du Midi, l'ouvrage collectif écrit par les comités d'action viticole avec la collaboration de Michel Lebris, on est saisi par la rigueur de l'analyse qu'il y développe quant aux bases frauduleuses des marchés du vin dans les années 70. Nous savions que l'économie viticole était mafieuse. Le vin est un produit de consommation. Une lutte s'était installée entre vin, boisson de terroir et vin, boisson industrielle. Dans ce combat, pour la première fois, la profession n'a pas perdu. La formulation est ici importante, celle de Cazes. Il ne dit pas qu'il a gagné, il dit qu'il n'a pas perdu. Ainsi, André Cazes devient-il un chef accompli, à la fois stratège de guérilla et penseur d'une économie viticole rénovée. Les manifestations étaient certes un système guerrier pour attirer l'attention sur la crise, mais elles ne suffisaient pas. Tu donnais un coup de sifflet et tout le monde arrivait. Nous étions une organisation paramilitaire. Ce qu'il fallait à la viticulture languedocienne était une vision du long terme. Jean Vialade, mon grand frère, disait à André, rapprochons-nous des organisations socio-professionnelles. Le voilà donc généralissime d'une armée redoutable, défendue en 1976 par Robert Badinter, parce que les affaires étaient allées très loin. André Cazes a fortement contribué à la désescalade. Le plus difficile est de s'arrêter. Après chaque coup dur, le pouvoir nous donnait raison. Entre nous, membres du comité, existait une solidarité fabuleuse. Avec émotion, il raconte que sa propriété a été gardée jour et nuit pendant 10 jours par 1000 personnes. Pour payer chacun de mes voyages à Paris, dit Cazes, au nom du comité d'action viticole, ma femme Dominique devait vendre 100 poulets qu'elle avait élevés elle-même, ou bien le couple est solide et il sort encore plus fort de la tourmente, ou alors il craque. André Cazes a beau croire aux hommes, il n'en a pas pour autant la tendresse aveugle. J'ai appris à connaître les deux versants de l'administration française, dit-il, avec ses bas-fonds les plus sordides, mais aussi avec des gens merveilleux. Il n'y a guère eu de juste milieu. Une seule solution, se méfier de tout le monde, même de son ombre. Voici maintenant Claude Marty chantant en occitan la révolte vigneronne du Midi en 1907 et les exécutions pour l'exemple lors de la Grande Guerre en 1917, le Languedoc rouge.
Era l'any 1907, los pobres manifestaban y volgueron pas tirar. Pobres soldats eren fraires. E volgueron pas tirar los soldats lengaducians. Gubernamente vengaràs, gubernamente vengaràs. A mi no guerro als alemans. Era l'any 1907, per Besiers manifestaven e volgueron pas tirar. Pobres soldats eren fraires. De què volies pas morir entre flus desconeguts, tan enterrat dins un llençol, tan enterrat dins un llençol, de fred o terra del nord. Aquell any 1917 te escribió ta maire, torno leu per la vinyo, plurisi la regardi. S'espuirido la fluruccio, s'espuirido la flu. L'han enterrado dins un llençol, l'han enterrado dins un llençol, amargant de més orgos. S'ha espuirido la fluruccio.
Évoquons maintenant une autre personnalité remarquable, celle d'Emmanuel Maffre-Baugé. Notre rencontre eut lieu à Bellarga, dans l'Hérault, voici 25 ans. J'utilise donc les notes prises durant un après-midi d'hiver dans le confort feutré de son chalet en pin de Finlande d'ailleurs, au beau milieu du vignoble héraultais. Emmanuel se remémore ce que d'autres nomment de grandes pages de l'histoire contemporaine du Languedoc. Au mur, une icône byzantine fait pendant à un trophée de sanglier. Il regarde vers le mur et dit « Ah, j'aime ça !» comme s'il fallait justifier la présence de l'ahure naturalisée. Cet homme, qui n'est pas encore un vieillard à l'époque, a peuplé son quotidien d'une multitude d'objets, d'images et de reproductions. L'une du Guernica de Picasso, une autre des Nymphéas de Monet. Ce contraste entre les deux œuvres est aussi finalement celui de sa propre vie de guerrier du vin. D'un côté, le combat, les déchirures, de l'autre, la nature, la poésie, le spirituel. À chaque heure, un coucou en délire surgit bruyamment de son abri, ambiance autrichienne en plein Languedoc. Et il poursuit. Enfant, j'étais insupportable, dit-il, sourire aux lèvres. Élevé d'abord à Sorèze, chez les Dominicains, puis à Montpellier, par les Jésuites, son chemin de vie ne s'est guère éloigné de la foi religieuse de ses maîtres. S'il a côtoyé de très près le Parti communiste, auquel il n'a d'ailleurs jamais adhéré, c'est parce qu'il y trouvait un écho à son propre humanisme chrétien de gauche. Emmanuel est un homme multiple, heureux de ses contradictions. Elles sont comme les bornes inverses desquelles jaillit la différence de potentiel qui produit l'énergie électrique. Emmanuel poursuit. La fondation du collège de Sorèze remontait à Louis XVI. À l'origine, c'était une école militaire. Dès l'âge de 8 ans, je portais donc l'uniforme. Je ne voyais ma mère qu'une fois par trimestre. De ma vie, je n'oublierai jamais l'odeur de mes pleurs dans son manteau d'astrakhan. J'ai détesté cette école où le surveillant nommé Sauveur, ça ne s'invente pas, nous enfermait le soir, chacun dans notre cellule. C'était Dickens, c'était Jane Eyre, mais aujourd'hui, avec le recul du temps, c'est mon école, affirme-t-il. Emmanuel Maffre-Bauger est né d'une mère fille d'officier qu'il qualifie de janséniste. Les militaires, dit-il, vivaient dans la misère dorée. Mon héritage est fait d'opposition. Par le christianisme, j'ai découvert le prochain. Et à l'époque, pourtant, certains catholiques avaient la dent dure. Ma mère et une amie avaient entrepris d'empêcher une femme divorcée de communier. C'était l'extrême rigueur religieuse. J'ai gardé la foi et je continue de pratiquer. Je ne me couche pas sans prier. J'ai fini par adopter le pape actuel, mais pas sans mal. Dans les pays d'Amérique du Sud, il n'est pas assez ferme vis-à-vis des pouvoirs en place. Et sur la contraception, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Élégant gentleman farmer, Emmanuel Maffre-Bauger est un virtuose du verbe, bien installé dans son temps. Il a le souffle jubilatoire et la parole imagée. Converser avec lui est une délectation. En l'écoutant, on cesse de s'étonner de la fascination qu'a exercée son éloquence de philosophe géorgique sur le peuple des vignerons, ses semblables. Ce talent oratoire lui viendrait-il du temps passé chez les jésuites ? Je ne me foutais pas mal de la casuistique, dit-il. Je ne suis pas un intello. Ajoutons qu'Emmanuel Maffre-Bauger a le culte des siens. Avec amour et respect, avec humour aussi, mais sans complaisance. Ses aïeuls, ses parents, ses cousins, tous ces gens modelés dans une argile languedocienne et bourgeoise reçoivent son affectueuse attention critique. Il est d'avis que sa rigueur et une certaine austérité lui viennent de son grand-père maternel, homme de devoir, qui avait étudié à l'école des Chartes, puis à l'école navale pour s'engager plus tard dans la coloniale. Côté paternel, avec un aïeul écrivain, sévère, dilettante et menant une vie dispersée, la représentation du monde était un peu différente. Le grand-père paternel d'Emmanuel Maffre-Bauger tenait plus du condottiere que du vigneron. Amant de Maud Gonne, l'égérie de la Révolution irlandaise, qui fut aussi la maîtresse du poète irlandais William Butler Yeats, il s'est battu du côté des carlistes en Espagne, a connu Pierre Loti et Barbet de Révilly. Quant au père d'Emmanuel, il considérait la viticulture de loin, au point que les villageois disaient de lui « Il promène la canne ». Un cadre est posé sur un meuble bas dans le salon et sous le verre, une photo de nouveau-né dans un berceau. En réalité, le berceau est un cercueil où repose Estelle, l'enfant mort-né d'Emmanuel et de Simone, sa seconde femme. Pour l'âme d'Emmanuel, nourrie aux racines spirituelles classiques de la civilisation méditerranéenne, la douleur infinie de cette perte renferme un signe. Aujourd'hui, son quotidien est fait de relations familiales, de bricolage, il est très manuel, et d'écriture. Cet aujourd'hui dont je parle remonte à une vingtaine d'années en arrière. Il poursuit, Je ne dépense rien, pas de café, pas de tabac. Je n'ai pas de fortune. Il aime la musique. Je ne cesse de tuer en moi le vieil homme, avoue-t-il, comme pour compléter l'énoncé de son emploi du temps journalier. L'histoire de vie d'Emmanuel Maffre-Bouger est celle de ses engagements politiques et syndicaux. Il revient sur l'épisode communiste. « On a dit de moi que j'étais communiste. C'est faux. J'ai été compagnon des communistes, mais jamais membre du parti. J'étais pour un communisme à l'italienne. Je l'ai connu, ce communisme-là, pendant 10 ans, au Parlement européen. Quand les communistes sortent de la démocratie, par contre, je ne les supporte plus. En ce qui me concerne, je ne suis pas pour le collectivisme parce qu'il enlève sa part d'initiative à l'individu. Je suis un réformiste. » Un ami dit de lui qu'il est un mousquetaire. Un autre qu'il est le pape de la viticulture. Emmanuel s'amuse de tous ces prédicats en concluant que le moi est haïssable. Emmanuel Maffre-Bouger légitimise la fondation des comités d'action viticole. Nous étions, nous, viticulteurs, mécontents des syndicats de l'époque, qui étaient tenus par les notables. Après les manifestations de Béziers, où nous étions 90 000 vignerons, nous avons créé un comité d'action viticole héraultais, à peu près en même temps que les Audois, c'est-à-dire en 1967. J'ai le souvenir d'une fraternité que l'on ne retrouvera jamais. À la différence des viticulteurs de 1907 autour de Marcelin Albert et de Féroul, le comité d'action viticole se situait dans une action offensive et même agressive. Il se souvient, nous étions prêts à casser du CRS. Tout le monde voulait que nous fassions l'Occitanie. Or, nous étions républicains. J'ai moi-même une vision plus septimanienne qu'occitane. Pour lui, c'est une évidence, sa première patrie est la Septimanie et la seconde, la France. C'est notre histoire en profondeur, notre origine véritable de gens très mêlés. Dans l'histoire de notre peuple, la vigne est toute puissante. Disons que Emmanuel Maffre-Bouger n'a évidemment pas connu la région Occitanie. Après 1967, les actions viticoles ont embrasé le Midi. Le bassin méditerranéen était parcouru d'un frisson social persistant. D'aucuns y voyaient le signe avant-coureur d'une révolution. Les départements les plus impliqués étaient l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les plus rudes de tous étaient ceux des Corbières. N'oublions pas que, sous la monarchie, rappelle Emmanuel Maffre-Bouger, la Corbière était un endroit où l'on bannissait les condamnés. En viticulture, c'était le pays des petits rendements. Pendant ces 10 années de mobilisation des viticulteurs du bassin méditerranéen, nous étions capables de réunir 50 000 et parfois 100 000 personnes pour une manifestation, rappelle-t-il simplement. Emmanuel Maffre-Bouger raconte dans son livre « Vendanges amères » comment il a, à 7, en compagnie de Georges Fraisse, échappé de justesse à l'irréparable. 2 motards viennent contre leur gré s'emprisonner dans un barrage de la voie ferrée tenu par 2 000 viticulteurs. La foule menace de lyncher les motards. Emmanuel Maffre-Bouger tente de calmer les esprits. Il se fait huer. Un manifestant s'écrie « Qui es-tu, toi, pour t'opposer à notre volonté ?» La réplique ne se fait pas attendre. « Et toi, qui es-tu donc pour ignorer qui est Maffre-Bouger ?» Suit un tonnerre d'applaudissements. En 7 ans, la vie quotidienne se jouait sur le fil du rasoir. Emmanuel Maffre-Bouger se souvient d'une autre intervention in extremis de sa part. Cela se passait à l'hôtel de ville de Narbonne. Michel Romain, le chef du comité, était sur le point de défenestrer Raymond Courrière, le président du conseil général de l'Aude. Il voulait le jeter à la foule agglutinée devant la mairie. Alors, dit Maffre Bouget, j'ai sauté sur la table pour empêcher Michel Romain de jeter le président par la fenêtre. À cette époque, Maffre Bouget cumulait une pléthore de responsabilités syndicales. L'homme débordait d'énergie vitale. Il le dit lui-même, j'occupais tant de postes différents qu'à certains moments, j'avais jusqu'à 35 secrétaires pour m'assister. Cela signifiait aussi que j'étais constamment à Paris pour les syndicats viticoles. J'ai travaillé avec Couve de Murville, Edgar Faure, Boulin et Chirac, alors Premier ministre. J'ai vu tous ces hauts responsables et on ne me fera pas dire du mal d'eux. Tout cela m'a permis de démystifier beaucoup de choses et de ne plus juger les gens qu'en fonction de leur disponibilité de cœur. Une anecdote mérite d'être racontée à propos du rapport qu'entretenait Maffre Bouget aux hommes politiques et au gouvernement. Maffre Bouget est un jour sur le salon de l'agriculture, passe Georges Pompidou, et Maffre Bouget veut dramatiser la situation, encore plus qu'elle l'est d'ailleurs, mais elle est dramatique, il est vrai. Et alors il se baisse, il fait un peu le vieil homme devant Pompidou, il dit « Monsieur le Président, les vignerons du Midi meurent de faim !» Et Pompidou devrait réagir « Pourtant, vous-même, vous n'avez pas l'air d'être mal nourri. » Il eut un jour à se rendre chez Edgar Faure, en compagnie du président Jean-Baptiste Benet, pour intervenir au titre de président national des vins de table et de pays. C'était l'époque où nous réclamions la complémentarité quantitative, ce qui revenait à limiter les importations de vins d'Algérie au minimum nécessaire. Et à ce moment-là, Emmanuel Maffre Bouget se met à imiter le zézément célèbre d'Edgar Faure. Dit Jean-Baptiste, pour décider, général, tu me fais une petite manif ? Et Edgar Faure de se tourner vers Emmanuel Bouget. Surtout, pas trop forte, hein, la manif. Durant les manifestations, le rôle d'Emmanuel Maffre Bouget était de prendre la parole. Il avait quelques facilités à cela, il faut le dire. Selon Emmanuel Maffre Bouget, le balancier électoral est mu par une logique implacable. Le Midi vote à gauche quand le gouvernement est à droite. Et quand c'est l'inverse, il est tenté par l'extrême droite. Comme en ce moment. C'est tragique, dit-il. Plus de 30 ans après la création du Comité régional d'action viticole, il est frappant de constater qu'une même unité de pensée, un même accord fondamental, relie encore ces piliers de l'époque. Il y a eu des hommes admirables dans l'Hérault. Il y avait Achille Gauche, Louis Tessier, Jean Huillet, dont on a parlé tout à l'heure au début de l'émission. Dans l'Aude, c'était des combattants tels qu'André Castéra, le Christ des Corbières, ou André Caz et Fabre Colbert, qui a le Verbe Juste, et Jean Vialade, que nous nommions le Lion des Corbières, qui plus tard a su prendre le relais économique d'une façon brillante.
Ancien vigneron, Jacques Serre, 26 ans au moment des faits, se souvient du moindre détail.
Quand on était sur le pont, on avait la colonne de CRS qui était de l'autre côté de la route et qui, eux, donc, tiraient vers le pont et tiraient vers le champ qui était en face.
Une vraie scène de guerre. Le 4 mars 1976, sur la nationale 113 qui relie Montredon des Corbières à Narbonne, des vignerons manifestent pour la libération de deux des leurs, détenus après une action contre l'importation de vins italiens bon marché. Armés de fusils de chasse, ils affrontent les CRS, alors que les négociations avec l'État ont été rompues la veille. Résultat, Émile Puites, un vigneron présent, est abattu. Côté CRS, le commandant Joël Le Goff est mortellement touché. Pour Jacques Serre, la détresse des agriculteurs aujourd'hui fait tristement écho aux affrontements de Montredon.
On n'a pas 50 solutions quand on n'a plus de revenus. Ou il faut se battre, ou il faut se suicider. C'est ce qui se passe souvent, quoi. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le monde agricole, on se dit, on se rapproche de second Montredon.
En 1976, Frédéric Rouanet n'était pas né. À Pépieux, Il produit du vin de Pays d'Oc avec ses 80 hectares de vignes. Comme tous les vignerons de sa génération, il a bien sûr entendu parler de ces affrontements qui font, selon lui, référence à un tout autre contexte politique, aujourd'hui révolu.
C'était beaucoup de leaders viticoles qui sortaient de la guerre d'Algérie, donc qui avaient vu ce que c'était des affrontements avec des armes et autres. Nous, on n'a même pas fait le service militaire, donc c'est plus du tout la même génération, plus du tout le même contexte. Voilà, ça n'a plus rien à voir, quoi.
Pour Frédéric Rouanet, les vignerons de l'époque ont sauvé l'activité dans la région. Mais aujourd'hui, les mêmes problèmes demeurent.
L'Europe ne peut pas fonctionner si les règles ne changent pas. Parce que ce n'est pas possible qu'on fasse le même métier à 200 km les uns des autres, sans avoir les mêmes charges patronales, sans avoir les mêmes règles pour pouvoir exploiter les vignes.
Les auteurs des coups de feu mortels des affrontements n'ont jamais été retrouvés. 40 ans après, les vignerons du département se réunissent pour rendre hommage à Émile Puytès.
Poniatowski a peut-être eu une vie de prince, mais il n'a rien compris à notre situation de l'époque. Si l'État s'est entêté le 4 mars 1976 à Montredon, c'est probablement à cause de lui. C'est sur son ordre que l'on a fait partir le train de Narbonne jusqu'au pont de Montredon. Il a invoqué la raison d'État. Il n'empêche que la raison d'État fait commettre aussi des erreurs, pense alors Emmanuel Maffre-Boger. À partir de Montredon, une réflexion est née, pourtant, qui a fait avancer la conscience des problèmes de la viticulture. Il le rappelle, l'Aude a attaqué avec beaucoup de force la politique de qualité, en se positionnant tout de suite à la pointe du combat. Ils ont fait un effort de qualité stupéfiant. Un très grand expert en vin établi en Bourgogne achète aujourd'hui dans les caves coopératives de l'Hérault et de l'Aude. Après Montredon, je me suis dit, ce n'est plus ta place. Et j'ai quitté le comité d'action viticole. Ancien député au Parlement de Strasbourg, Maffre-Boger est un Européen ardent, même s'il déplore que l'Union soit économique et non pas sociale. J'avais décidé de poursuivre l'action au niveau européen, mais j'ai été assez déçu, se souvient-il. J'ai passé chaque semaine 2 jours à Strasbourg. C'était un rythme éprouvant. Par 2 fois, j'ai approché la mort, hospitalisé à Lariboisière, à la suite d'une crise cardiaque. J'ai reçu la visite de Georges Marchais, un autre malade du cœur. Dans un supermarché l'autre jour, quelqu'un l'a interpellé. Hey, c'est toi, Emmanuel Maffre-Boger. On devrait t'élever une statue pour tout ce que tu as fait. « Arrête !» répond Maffre-Boger, « quand tu penses que l'on ne m'a même pas donné le mérite agricole. » L'autre de répondre, « mais c'est justement pour ça qu'on t'aime. » Parlons enfin d'un autre personnage charismatique du comité d'action viticole qui mérite pleinement notre attention d'aujourd'hui. Il s'agit de Jean Vialade, surnommé « le lion des corbières ». Né en 1926 à La Grasse, Jean Vialade est mort en 2013 à l'âge de 86 ans. Cet homme des Corbières, dont la personnalité est l'une des plus marquantes des comités d'action, tant il est imprégné de sa terre, tant souffle en lui l'âme occitane, est capable d'écrire au vitriol. L'homme travaillait la semaine sur le domaine de Pechelat, à Ribaut, près de La Grasse, et pendant le week-end, aux 4 hectares de vignes familiales avec son épouse Juliette. Jean Vialade est connu pour avoir, dès 1989, accompagné la mise en agriculture biologique du domaine Pechelat, propriété de la famille André de Carcassonne. Vialade est nommé en 1992 par Pierre Bérégovoy au Conseil économique et social. D'innombrables articles de presse et reportages de l'époque le montrent juché sur tel ou tel piédestal improvisé, déployant une énergie folle pour contrer par le verbe ceux qui, selon lui, en veulent à la viticulture et aux vignerons. Comme plusieurs de ses camarades du comité d'action viticole, Jean Vialade cumule les engagements. Il soutient les Basques, les Bretons, les Verts allemands et les minorités ethniques. Un jour de forte pluie, une voiture noire s'arrête devant la maison de Vialade. Sans frapper, un homme s'engouffre dans la cuisine. « Bonjour, je suis le préfet de l'Aude », annonce-t-il. Juliette, la femme de Jean Vialade, lui fait savoir qu'elle refuse de lui parler parce qu'il n'a pas pris rendez-vous. Laissant son mari s'entretenir avec le représentant de l'État, Juliette part en voiture et s'aperçoit rapidement la présence de policiers derrière chaque cyprès.
Avant de chanter ma vie, de faire des harangues dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort. On compte que j'eus la tête au jus d'octobre. Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, ô noblesse sans pareille, il coule en mon cœur la chaude liqueur de la treille. Quand on éteint ça, j'ai qu'on a du savoir boire. On se garde à vue en cas de soif une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbon. Au ventre replet, rempli du bon lait de l'automne. Jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amygdales. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Hélas, il ne pleut jamais du gros bleu qui tâche. Qu'elle donne du vin, j'irai traire enfin les vaches. Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir écouté. Merci aussi à Léo Touroult, dont les bons soins ont rendu possible cette émission. Thank you.